Europe 1, il est 7h39. Un pays mobilisé. L'appel du président de la République à la responsabilité. Un pays engagé contre le virus. À l'hôpital. Pour la survie des entreprises aussi. Contexte inédit, quoique. C'est l'acte 2 du confinement. Mon invité, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Avant de parler de cet acte 2 du confinement, je le disais, et notamment du télétravail avec vous, quand on regarde ce qui s'est passé à Nice, particulièrement hier, 3 morts, cet attentat, quelle est votre crainte ? Celui de l'attentat ou celui de la division, des divisions de nos sociétés, Laurent Berger ?
Après l'attentat d'hier à Nice, terrible, dans un lieu de culte, après l'attentat dont a été victime un professeur, M. Paty, terrible, dans une institution de la République, bien sûr qu'il y a des craintes. Il y a énormément de craintes que ce style d'attentat se perpétue, que l'intégrisme islamiste radical continue ce type d'action. Et de l'autre côté, beaucoup de craintes aussi sur la division de la société, sur une espèce d'accélération de réactions en chaîne qui finalement nous ferait accepter qu'il faudrait se dépasser l'état de droit, le mettre de côté pour essayer de rentrer dans une course de division et de lutte contre cet intégrisme. Il va falloir garder son sang-froid. Il va falloir garder son sang-froid. Garder son sang-froid, c'est condamner sans ambiguïté l'intégrisme islamiste radical, sans ambiguïté. Et de l'autre côté, ne pas tomber dans les espèces d'amalgames ou de confusion des sujets. Et donc, pour ça, on a la chance d'être dans un état de droit qui fixe des règles, qui a des filets de sécurité. J'ai entendu un sénateur dire « on va pas se laisser embêter par un conseil constitutionnel ». Ben si, ils sont là pour ça. J'en entends d'autres qui disent « peu importe l'état de droit, maintenant c'est la bataille qu'il faut mener ». Non, gardons notre sang-froid. Et garder ce sang-froid, c'est avoir une volonté d'unité.
C'est ce qui nous distingue.
Bien sûr, c'est ce qui nous distingue de ces barbares. C'est qu'on a des règles, c'est qu'on s'applique des règles collectives. C'est qu'on a des filets de sécurité démocratiques. Ça veut dire qu'il faut être sans ambiguïté sur cette condamnation et sans ambiguïté sur la volonté de le combattre. Et donc, il faut aussi se protéger. Mais il faut, je crois, avoir en tête qu'on garantisse l'unité de notre pays et ses valeurs démocratiques.
Et j'en terminerai par là sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on quitte presque le terrorisme. J'entends dans ce que vous dites la crainte de fracture d'une manière générale, au-delà de cette question de l'islamisme radical, d'une société peut-être un peu ou beaucoup divisée.
Oui, on est dans une société très divisée, où les inégalités, les ressentis, les ressentiments parfois sont extrêmement puissants. Et en fait, avec une société où on essaye de disqualifier son interlocuteur. On essaye d'avoir raison. C'est une accélération des temps liés aux réseaux sociaux et autres. Enfin, moi, je suis assez inquiet de notre incapacité à poser les vrais débats et à accepter la complexité de ces débats. Moi, je veux pas choisir un camp sur certains sujets. Je veux pas être taxé non plus de mou. Il faut être radical dans la façon de poser ses positions. C'est-à-dire dans les, il faut avoir des convictions, mais on a droit d'écouter les interrogations de l'autre et d'essayer d'entrer dans la discussion. Et donc, je ne serais ni dans la complaisance, par exemple, sur le sujet précédent à l'égard, ni dans une espèce de compréhension malsaine à l'égard de l'islamisme radical, ni dans la confusion dans laquelle certains nous entraînent entre cet intégrisme, cet islamisme radical et nos concitoyens de confession musulmane qui eux-mêmes condamnent largement. Donc il va falloir se poser, avoir un peu de nuance. Albert Camus disait que c'était le signe de l'intelligence. Je crois que il faut vraiment aller là-dessus.
Alors avec vous, Laurent Berger, on va essayer de garder la tête froide ce matin. Nous voilà donc arrivés dans une nouvelle phase de confinement, deuxième vague. Et je répète cette question à l'envi. Qu'a-t-on appris du printemps ? Laurent Berger, après le télétravail massif, mais bien souvent improvisé au mois de mars, est-ce qu'on est prêt à le redéployer comme le demande Elisabeth Borne ? Il doit être généralisé.
Pour une raison sanitaire, il faut qu'un maximum de gens puissent télétravailler, mais il va falloir intégrer que pour certains, ça s'est pas bien passé. Donc il faut l'encadrer. Ça veut dire quoi l'encadrer ? Il faut avoir les conditions matérielles pour le faire, les conditions d'équipement informatique par exemple. Il va falloir tenir compte aussi des fragilités de tel ou tel salarié qui ne peut pas, pour des raisons psychologiques parfois, travailler chez lui. Donc moi je souhaite que, bien sûr, le message soit au maximum le télétravail, mais que par accord d'entreprise.
Mais vous le réclamez, je me permets, entre les deux vagues, vous avez passé votre temps à réclamer justement qu'on fixe un cadre,
oui,
qu'on discute, qu'on se prépare.
Oui, parce que avouez que quand même en mars-avril, ça s'est fait à l'arrache. Des gens l'ont très bien vécu, ça s'est très bien passé, et d'autres l'ont vécu de façon extrêmement douloureuse. Et donc, ça veut dire qu'il faut encadrer, il faut avoir y compris. Dans l'encadrement, c'est quoi? C'est les conditions matérielles, mais c'est aussi s'interroger sur les façons de manager à distance. Comment on fait? C'est pas pareil de manager en présentiel que de manager à distance. Comment on fait pour le faire? Comment on développe de l'empathie à l'égard de ses collaborateurs, mais aussi de ses collègues, dans un moment où on se voit pas? Donc, tout ça, ça mérite que, dans les entreprises, avec le comité social et économique, on prenne le temps de se poser un peu. Ça veut pas dire que le télétravail n'a pas commencé, mais qu'on continue de discuter. Et puis, il y a une négociation interne professionnelle nationale sur le télétravail qui s'ouvre la semaine prochaine. La CFDT demande qu'on ouvre cette négociation et qu'on se quitte quand on a bouclé cette négociation. On va pas prendre un mois et demi ou deux mois dans cette période de télétravail massif pour se mettre d'accord au niveau national entre les partenaires sociaux.
Une guerre menée par des civils, me disait hier Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF. Ces civils, ce sont des personnels soignants déjà. Certains ont renoncé à des vacances, d'autres sont exsangues et voient arriver cette vague que l'on dit plus forte, plus meurtrière que la première.
Moi, j'ai discuté avec les représentants des soignants hier. Ils sont à la fois ultra mobilisés. Franchement, ils sont étonnants de conscience professionnelle, mais ils sont déjà fatigués.
Déjà.
Donc, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux tous sur ces gestes barrières, sur ce confinement, parce que ce sera la meilleure manière de les soigner. Et le deuxième élément, c'est pas les seuls qui seront en première ligne. Il y en a d'autres. Qui vont être en deuxième ligne. Ceux-là, on les a pas reconnus depuis mars-avril. Ce sont tous ces travailleurs des activités essentielles, notamment de l'alimentation, de l'agroalimentaire, du déchet, etc. Là, maintenant, il faut un geste très très fort à leur égard.
Salarial.
Très vite. Oui, bien sûr.
Salarial.
Il faut un geste salarial.
Laurent Berger, en même temps, on parle même plus de compétitivité, de développement des entreprises. Là, on parle de survie des entreprises. On peut imaginer ce geste salarial?
On parle de survie des entreprises, on parle d'investissement, de surinvestissement de professionnels et de salariés, et qu'ils font dans un contexte de risque accru. Et donc, je crois qu'il faut une reconnaissance de ces travailleurs de deuxième ligne beaucoup plus forte que ce qui s'est passé, puisque finalement, il s'est quasiment rien passé depuis mars-avril. Et puis, il va falloir aussi protéger. On n'est pas dans le même contexte, hein, il faut bien le comprendre.
On a échoué, pardonnez-moi, sur la reconnaissance de ceux qui étaient ces deuxième lignes dont vous parlez. Après le confinement, après le premier confinement.
On a joué, vous voulez dire ?
On a échoué.
On a échoué. Ah, bien sûr, on a échoué. On a échoué, il ne s'est rien passé. Donc, il ne faut pas échouer une deuxième fois, il faut le faire très vite. Vous savez, on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans la même situation parce que ce confinement-là, même s'il est différent, il ne se passe pas sur un terrain économique plus sain. Il est déjà très détérioré, la situation économique. Il ne se passe pas sur une situation sociale saine. Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de suppression d'emplois, il y a beaucoup de PSE. C'est ma préoccupation de cette période.
Quelles sont les remontées que vous avez du terrain d'ailleurs là-dessus ? Le chômage, c'est une fatalité ?
Non, c'est pas une fatalité. Ça doit pas être une fatalité. Il faut continuer les dispositifs de maintien dans l'emploi. Mais c'est effectivement plus difficile dans cette période que ça ne l'a été en mars-avril, parce que la situation économique est évidemment beaucoup plus détériorée. La situation du chômage l'est aussi. Donc on a des PSE, malheureusement, qui se multiplient dans les secteurs qui sont quasiment à l'arrêt. On parle de l'aéronautique, mais la restauration collective en est un autre, l'événementiel, etc. Donc il va falloir, là aussi, garder la tête froide, pour reprendre votre expression tout à l'heure, c'est-à-dire de regarder les problèmes, de continuer de créer des protections pour les entreprises, d'accompagner les entreprises. Enfin, on n'a aucun intérêt à ce que les entreprises se cassent la figure les unes après les autres, mais aussi accompagner les salariés, et notamment ceux qui ont un peu les invisibles, ceux qui ne sont pas souvent les mieux couverts par la protection sociale. Donc il va falloir regarder comment, pour chaque catégorie de salariés, on met cette protection sociale qui assure un minimum de revenus dans cette période. Et puis, il faut aussi continuer à penser la reprise, d'une certaine manière, la relance. Ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais surtout, il ne faut pas penser simplement à court terme, dans les 15 jours et 3 semaines. Sur la question sanitaire, il faut le faire comme ça, mais sur la question sociale et économique, il faut penser l'avenir. Et c'est un peu difficile, parce qu'on sait qu'on rentre dans une période très perturbée.
Il y a deux crises, hein, économique et sanitaire, et dans les deux cas, ce sont les plus précaires qui sont le plus touchés,
toujours,
Laurent Berger.
Toujours, on le sait, la pauvreté a augmenté. Les réponses ne sont pas à la hauteur. On a redemandé, moi j'ai redemandé mardi soir au Premier ministre, que par exemple pour les jeunes qui n'ont pas de revenus de moins de 25 ans, qui n'ont pas de revenus de subsistance, qui n'ont pas le droit au RSA, on instaure un revenu pour eux. On ne les laisse pas dans la situation de pauvreté. On sait aussi que le confinement, par exemple le reconfinement, ça va de nouveau poser la question des sans-domicile fixe. On fait quoi? Est-ce qu'on est capable de refaire ce qu'on a fait au prix d'une grosse énergie en mars-avril, de leur retrouver une solution? solution et cette fois-ci pérenne. Donc on a de multiples défis. Si on n'a pas toujours en tête les plus fragiles, les plus précaires, ceux qui sont le plus exposés, on va creuser les inégalités encore et on creusera les difficultés démocratiques dont on parlait tout à l'heure.
Vous restez à Paris, Laurent Berger ?
Oui, je reste à Paris, ouais, je crois qu'il vaut mieux être là pour l'instant.
Merci beaucoup, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. En direct ce matin, la tête froide sur plusieurs sujets, hein, c'est ce que je retiendrai ce matin. Merci Laurent Berger. Il est